qui êtes-vous?
Je suis Madame Lotroïc. Il y a 15 ans, au moment de la naissance de Radio Cartable, j'étais l'inspectrice de l'éducation nationale à Ivry.
Pourquoi avez-vous aidé Radio Cartable?
Eh bien, pour arriver à ce qu'une radio voit le jour, qu'elle naisse, il fallait que plusieurs personnes fassent des travaux divers. Vous en verrez certainement d'autres qui vous raconteront ce qu'elles ont fait. Moi, mon travail, c'était un travail d'inspectrice de l'éducation nationale, c'est-à-dire que je devais obtenir l'autorisation en la demandant à tous les chefs qu'il y avait entre nous ici et le ministre, qui est le ministre de l'éducation nationale, qui est le grand chef de toute l'école. Il fallait que l'inspecteur d'académie, que le recteur, que le ministre lui-même donne son autorisation. Donc moi j'ai écrit en expliquant pourquoi il me semblait tout à fait important que les enfants des écoles d'Ivry puissent disposer d'une radio. Et puis nous avons également dû aller voir un autre organisme qui s'était créé à ce moment-là au niveau du gouvernement de la France, qui s'appelait, si je me rappelle bien, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, parce que devant toutes ces radios qui naissaient partout, dans les usines, dans les quartiers, dans un groupe d'amis qui avaient envie de parler de quelque chose sur la radio, il fallait bien que quelqu'un dise, bon, voilà comment on va répartir les longueurs d'onde. Vous qui faites de la radio, vous savez bien que c'est par les ondes que voyagent les émissions de radio. Donc nous sommes allés voir un responsable du comité de l'audiovisuel, du conseil supérieur de l'audiovisuel, voilà, je ne retrouvais plus le nom, qui s'appelait Monsieur Carlin, qui est un grand cinéaste et qui nous a donné son autorisation.
Pourquoi avez-vous accepté que Radio Cartable il existe?
Parce que ça me semblait tout à fait passionnant et très intéressant. Et là, je parle aussi de mon métier, à moi, qui était de réfléchir à la façon dont les enfants pouvaient le mieux faire tous les apprentissages qu'ils ont à faire quand ils sont à l'école. Vous savez bien que vous apprenez beaucoup, beaucoup de choses. Et qu'un de ces apprentissages les plus importants, c'est celui de la langue française. Comment arriver à maîtriser, comme disent les grandes personnes, à savoir tout à fait bien utiliser la langue française. Il me semblait qu'une radio, c'était quelque chose de tout à fait important. D'abord parce que souvent, on prépare par écrit ce qu'on a envie de dire, et qu'au moment où on prépare par écrit, vous savez bien tout ce à quoi il faut penser pour que ce qu'on écrit soit comme il faut, pour qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, pas de faute de grammaire, pour que les mots soient les meilleurs, les mieux choisis, et puis aussi parce qu'après, on apprenait à parler. Et vous savez bien aussi que ça n'est pas du tout la même chose de répondre à la question que la maîtresse ou que le maître vous pose, et puis de se mettre devant un micro et d'apprendre à ne pas bafouiller, d'apprendre à ne pas être timide. C'est difficile tout ça. Et ça me semblait des choses tout à fait importantes à donner à des enfants.
Quelle a été votre responsabilité pour faire vivre Radio Cartable?
Il y avait dans l'équipe de grandes personnes qui étaient des instituteurs ou des directeurs ou des conseillers pédagogiques, ou des enseignants à la retraite. Il y a beaucoup de gens qui ont tous fait un certain travail. Et par exemple, je crois que vous allez interroger un certain monsieur qui s'appelle Monsieur Laborie, qui a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup de classes à fabriquer leur émission, il a appris aux enfants et parfois aussi aux maîtres comment on pouvait fabriquer une émission. Et moi, ce n'était pas mon travail. Mon travail, c'était les rapports avec ce que vous entendez parfois les grandes personnes appeler l'administration. Ça veut dire être sûr que monsieur l'inspecteur d'académie allait continuer d'être d'accord d'une année sur l'autre avec Radio Cartable. Et ça, quand je dis monsieur l'inspecteur d'académie, ça veut dire tous les chefs qui étaient au-dessus de lui aussi, c'était de rencontrer monsieur le maire ou monsieur le maire adjoint à l'éducation nationale qui s'appelait monsieur Minck pour essayer que la municipalité d'Ivry participe aux finances parce que ça coûte cher, tout ça. Ce studio, vous imaginez bien qu'au moment où on l'a construit, on a acheté tous les appareils qui étaient nécessaires, ça a coûté beaucoup d'argent. Il fallait donc essayer que les personnes qui pouvaient nous donner de l'argent nous donnent de l'argent. Et la municipalité d'Ivry a installé ce studio. Alors quelque chose qui dure, eh bien, ça n'est pas parce que les gens restent sur place et continuent de le faire, c'est parce que c'est assez intéressant pour que tous les gens qui arrivent, enfin pas tous, mais que chaque année des gens arrivent et se disent « Oh mais, moi je vais participer à cette activité-là, parce que je pense que ça va être très bien pour mes élèves. »
Actualité.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère vous retrouver le 7 décembre pour de nouveaux inédits.
Et d'ici là, vous pouvez retrouver les émissions sur le site Radio Cartable, radio-cartable.ouvaton.org.
Au revoir!
Radio Cartable. École d'Ivry.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec à la technique Flo des Cailloux, qui s'agite déjà, puisqu'elle a un beau programme, nous paraît-il, et nous avons un excellent programme littéraire avec Philippe Lacoche, qui va vous parler de ses deux derniers ouvrages, entre autres, parce qu'il publie beaucoup, Philippe Lacoche, un recueil de nouvelles, Oh les filles, qui vient de paraître aux éditions Héliopole, et puis, on est tous faits d'origine plus ou moins lointaine, de terre. Philippe Lacoche est picard, et il a signé aussi aux éditions Héliopole un petit ouvrage savoureux, j'allais dire. Je suis picard, mais je me soigne. Philippe Lacoche, bonjour.
Bonjour Valère-Marie.
Et alors, on s'était déjà vu une fois, je sais plus, hein, ça fait longtemps, on voit plus pas.
Il y a longtemps, une soixantaine d'années à peu près, je pense. non, il y a quelques années. Oui.
Quelques années. Oui, oui. Et vous publiez donc « Oh les filles » aux éditions Héliopole, un recueil de nouvelles,
oui.
Un éditeur courageux puisqu'il publie...
Très courageux dans le contexte actuel des maisons d'édition. Rares sont les éditeurs, les bons éditeurs qui prennent le risque d'éditer des textes courts et des nouvelles en particulier.
Et puis là, avec dans l'avant-propos, Oh les filles, je me suis permis d'emprunter ce titre à la célèbre chanson des Penguins, œuvre d'Eddie Vartan et de Marty Robbins, immortalisée par l'impayable couple au bonheur des dames. Oh les filles, c'est la chanson. Donc déjà, le ton est donné. La chanson, c'est comme on pourrait dire un art mineur. Et je pense que vous aimez bien ces arts un petit peu mineurs qui deviennent majeurs.
J'adore les arts mineurs. Oui, j'adore les arts mineurs. Et ce clin d'œil au bonheur des dames, pour moi, c'était quelque chose de fort. Ce n'est pas anodin. C'est une très belle chanson, d'abord. Oh les filles, tout dou 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 dou, elles nous rendent marteau. J'espère me faire embaucher, je vais me faire signer chez Phonogramme ou VE après ça. Et donc, très belle chanson. Et puis, c'est un souvenir, Valère-Marie, parce que très jeune, j'avais une vingtaine d'années, j'étais musicien, je faisais du rock, du blues, et j'avais eu la chance dans ma bonne ville de Ternier, dans l'Aisne, de faire la première partie de Bonheur des Dames, dans les années 77, à peu près 76-77. C'était un vrai bonheur des dames.
Ouais. Alors, il y a beaucoup de personnages de femmes dans vos nouvelles.
Oui.
Et puis, il y a cette notion, on pourrait dire... Alors, je voudrais d'abord connaître votre définition de l'art de la nouvelle, parce que la chanson, c'est l'art du bref aussi.
Oui.
Vous êtes parolier, vous avez écrit des chansons.
Oui.
Est-ce que c'est comparable à l'art de la nouvelle? Quelle serait un peu, Philippe Lacoche, votre définition de l'art de la nouvelle?
Alors, l'art de la nouvelle, bon, c'est la brièveté, comme vous l'avez dit. Il faut aller vraiment à l'essentiel.
Ouais,
quoi. Ouais. Et alors, il y a deux... deux écoles, si on peut dire. Il y a l'école Maupassant, avec de vraies chutes. Très, très, très beau genre, très, très belle façon d'aborder la nouvelle. Une vraie... des chutes... là, surprenante, là, émouvante, là, là, complètement farfelue, rigolote, absurde. Et puis, il y a ce qu'on appelle les nouvelles qui chutent, qui se terminent en pente douce. Alors, je pense, par exemple, à Carver. C'est un de mes nouvellistes préférés, Carver, Raymond Carver, qui, parfois, chute à la Maupassant, c'est-à-dire avec de vraies chutes, et parfois, qui chute de façon extrêmement, je dirais, presque floue et en pente douce, comme dirait Pierre Pellaud. C'est pas un été en pente douce, c'est une nouvelle en pente douce. J'appelle ça nouvelle en pente douce. Voilà. Et donc, bah, la nouvelle, c'est ça, c'est raconter en peu de mots, en peu de phrases, une histoire ou en tout cas un climat. Et c'est la brièveté. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, beaucoup de primo-romanciers disent « Oui, on va essayer de commencer par la nouvelle avant de faire un roman. » Ils se lancent difficilement dans le roman, ils ont des difficultés, ils disent « On va se rabattre sur la nouvelle. » C'est une erreur.
C'est une erreur.
Parce qu'il est plus facile de faire long, et ça, n'importe quelle bonne école de journalisme vous l'apprend. J'ai fait celle de Tours, et j'avais un excellent professeur d'écriture, de technique d'écriture, qui s'appelait Monsieur Berkovicius, qui nous apprenait à faire court. Et l'art du court, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. On dégrossit la pierre brute, comme on dirait en d'autres cercles. Il faut dégrossir la pierre brute. Il faut vraiment dégraisser. Un roman, ce n'est pas grave. Quelques égarements, quelques...
Au contraire.
Voilà, au contraire, on peut se permettre de faire un peu long. Bah voilà, on s'est un peu égaré. La nouvelle, ça ne pardonne pas. Trois phrases de trop, cinq adjectifs de trop, l'utilisation de trop de relatives et des phrases longues, vous êtes fichu.
Ouais,
on est fichu. C'est un art difficile.
Comment vous écrivez vos nouvelles? Vous partez du titre, vous partez de la fin, vous partez d'une... Comment vous... Est-ce que c'est différent que le roman? Est-ce qu'il y a une
ouais.
phrase au départ?
Alors, il y a des situations... Alors maintenant, je l'avoue humblement, il faut être franc, je suis là pour ça. Maintenant, souvent, ce sont quand même des commandes. J'ai des commandes,
oui.
Parce que je suis un petit peu connu comme nouvelliste, donc bah voilà, là une revue, là une radio pour un texte d'accompagnement, là un festival, un salon, enfin etc., demande voilà, des textes, et je m'arrange pour, comme j'adore ça, j'adore écrire des nouvelles, pour moi c'est pas un travail. Alors pour répondre à votre question, bah, j'ai une idée, alors parfois le thème est imposé, maintenant, mais avant, quand il n'y avait pas de commandes, j'étais plus jeune, c'est une idée, une émotion, tout simplement une histoire. J'ai été journaliste localier pendant des années, notamment au Courrier Picard, à la Nouvelle avant, au Courrier Picard après, grand moment. Et il m'est arrivé de faire beaucoup de faits divers. Pendant plusieurs années, j'étais fait diversier. Et j'ai fait aussi chroniqueur judiciaire. J'étais chroniqueur judiciaire, je faisais le tribunal de grande instance et les assises. Alors là, on a des histoires fantastiques, des personnages qu'on ne pourrait pas dire forcément... On peut pas tout dire sur le journal parce que bon, respect des familles, respect même des prévenus ou des personnes qui ont commis des méfaits. Mais sous le masque, si on peut dire, de la fiction, ce beau masque qu'est la fiction, on peut tout utiliser. Et il m'est arrivé d'utiliser des faits divers, des affaires d'assises, des affaires du tribunal de grande instance, et ça c'est un bonheur. Mmh. Et puis parfois c'est des conversations de bistrot. Le bistrot pour moi c'est une autre façon d'aller au temple, c'est un temple de la ville. Le bistrot c'est magnifique, les PMU c'est superbe, on va boire un café ou un demi. Et tout se passe là, quoi. C'est là qu'on a vraiment le... c'est pas en lisant Le Monde, moi, que je prends la température. J'ai rien contre Le Monde, hein, qui est excellent journal et que je respecte. Mais moi, je prends plus la température de notre société, je dirais notre triste société aujourd'hui, mais je pourrais y revenir. Dans les bistrots, c'est banal, ça, ce que je dis. Simenon l'avait fait avant moi, d'autres Boudard l'ont fait avant moi, Blondin, bien sûr, n'en parlons pas. Et c'est là qu'on prend vraiment, en discutant avec les gens, voilà, bah oui, là ça va, là il fait beau, là... Là, l'inflation, bah, ça va nous faire crever. Là, moi, j'ai plus envie de vivre parce que, voilà, j'en suis là. J'ai mes gosses, j'arrive plus à leur donner à bouffer. Ben voilà, c'est ça aussi. C'est ça. Donc, pour répondre à votre question, c'est souvent ça.
Se nourrit la fiction se nourrit de tout. Alors, il y a un petit peu de nostalgie hein, dans vos nouvelles. Il y a aussi... ce sont des personnages qui sont en décalage, en permanence.
Ouais.
Toujours en décalage. La notion de temps... Bah, ils ne sont pas toujours maîtres des horloges, comme dirait quelqu'un. Hein. Oui. Parfois, j'ai l'impression de vivre avec une Prussienne, dit l'un de votre personnage. Tu me gonfles avec ta peur constante d'arriver hors délai. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde est en retard. C'est la société qui veut ça. On nous demande de faire plus ou moins en moins de temps. Toujours plus. Normal qu'ils soient tous en retard. La social-démocratie, cousine du libéralisme, nous a envoyé les 35 heures. Je lui renvoie ma révolution prolétarienne sous la forme d'une bombe à retardement. Le retard. Et plus tu verras qu'on n'y sera même pas en retard. Donc voilà, ce sont des décalés volontaires de la vie.
Oui. Ah bah tout à fait, vous avez bien lu. Voilà, Marie, effectivement, je me souvenais plus de ce passage. Mais oui, bah c'est ça, quoi. Ce sont des décalés, effectivement. J'ai beaucoup de personnages
recalés,
de notaires aussi.
Des recalés, même.
Des recalés et des décalés. Ouais. Oui, ce sont pas des... Ils ont tous des failles. Hein. Je vais vous dire franchement, j'aime pas les vainqueurs. Enfin, j'aime pas, par principe, tous mes copains, mes copines sont souvent des gens qui ont des failles, plus ou moins. Et je ne les recherche pas forcément, mais inconsciemment, je dois les rechercher. Parce que moi-même, voilà, je suis bourré, comme beaucoup de monde, je suis bourré de failles, de mélancolie, de spleen, enfin, tous ces petits venins qui font à la fois le charme de la vie et à la fois son petit poison. Et ben voilà, je me débrouille avec tout ça, je suis pas le seul, c'est banal. Mais mes personnages sont comme ça. Voilà, on est loin des héros, on est loin de Batman et etc. quoi. On est loin de tout ça. Mais même un de mes héros préférés, j'ai commencé à écrire, ça va vous faire sourire, grâce à Tintin. Et à ma maman qui m'achetait les albums de Tintin. La plus belle, c'est maman, c'est bien connu. Et donc, Tintin, même Tintin a des failles, je trouve. Tintin, il m'a toujours fasciné. J'adore les albums de Tintin.
Ah, puis il y a le capitaine Haddock.
Ah, puis alors Haddock, n'en parlons pas. Lui est bourré de failles. Mais même Tintin, il a pas de vie intime et amoureuse, Tintin. Apparemment, on ne sait pas tout. Hein. J'ai lu dans VSD qu'il aurait une histoire avec la Castafiore. Ça, c'est pas prouvé.
C'est ce qu'on a dit.
C'est ce qu'on a dit. Bon, on ne sait pas. Mais en tout cas, même Tintin, je lui trouve des failles. Et c'est pour ça que j'aime bien Tintin aussi. Je trouve qu'il a des failles. Il a des petites défaillances aussi. Ouais. Voilà.
Donc, adepte de la ligne claire.
Voilà. Ah, les lignes claires, bien sûr. J'aime bien aussi les trucs un peu barrés aussi.
Un peu fumeux aussi. Vous aimez bien les trucs un peu fumeux, un peu brumeux. La brume,
oui,
vous aimez
aussi.
Oui,
la brume. Et en peinture, les impressionnismes me fascinent. Enfin, bon. Oui, je suis bon public, à vrai dire. Tout ce qui m'émeut me plaît. C'est banal, mais je trouve que, je vais chercher mon plaisir. Mais il y a des choses trop barrées, effectivement. L'art abstrait, il y a des choses... L'ultra abstrait, généralement, ne me convainc pas, ne me plaît pas. Je respecte, hein, il faut tout pour faire un monde. Mais il y a des choses, non, un clou, j'avais vu une fois un pneu crevé avec un gros clou, c'était exposé dans un grand musée. Il y avait sept œuvres, donc ce pneu troué par un gros clou, crevé par un grand clou, et il y avait à peu près deux feuillets de discours. J'ai pas compris. Et ça ne m'a guère ému.
Pas le conceptuel. Pour revenir à la ligne claire, Philippe Lacoche, vous avez le sens de l'atmosphère. On pensait à Simenon, on pense à des... Le ciel était gris plomb, et bas comme le moral de Cocteau à l'annonce de la mort de Radiguet. J'ai trouvé ça épatant, parce que tout est dit.
Merci,
c'est gentil. Il y a toute une histoire qui est dite, en une phrase.
Ils s'aimaient tellement, ces deux-là, j'ai pensé, à vrai dire, c'est un peu pas gratuit, mais je pense que c'était si bel amour entre... Enfin, parce qu'il était fou, hein, Cocteau était fou de Radiguet. Magnifique écrivain, quand même. Hein. Radiguet, c'est quelque chose. Moi, j'en veux à la fièvre, à la typhoïde. Je crois qu'il a eu la typhoïde. Il nous aurait donné des chefs-d'œuvre. Et donc, j'ai pensé à lui quand il a appris la mort de ce pauvre Radiguet. Et ben voilà, c'est venu comme ça, une image un peu... Ouais, on peut, qu'est-ce qu'on peut dire ? Enfin, ça vous a plu, c'est le principal. Je sais pas si je le réécrirai maintenant, mais le principal, c'est que ça vous a interpellé, Valère-Marie.
Et puis, il y a un autre vos personnages sont revenus de tout, ils sont un peu désabusés. Elle accepta, charmée par cet homme qui semblait revenu de tout, et qui, dès qu'il était amoureux, dessoulait aussi vite qu'il mettait un temps fou à son livret.
Oui.
Alors,
oui,
il y a des rembobinages, comme ça, j'allais dire. Il y a des rétropédalages, il y a des...
Oui,
On voit que c'est le manège de la vie, un peu,
oui.
Hein, ce livre. L'enfance aussi qui est là. L'enfance.
Oui.
À la table, tout le monde se tait, on l'écoute. Elle transmet l'intransmissible, une erreur de presque enfant d'un temps ancien. L'intransmissible que peut-être l'enfant que je suis, à mon tour, transmettra un jour, bien plus tard, dans l'eau du quand l'eau du temps aura coulé sous les ponts de l'oubli.
Oui.
Il y a un côté Macorlan.
Ah, Macorlan. Oh, quel compliment. C'est un de mes écrivains préférés. Oublié, malheureusement.
Ouais.
Ah, Macorlan, j'adore Macorlan. Qu'est-ce que c'est beau, Macorlan. Qu'est-ce que c'est bien. Alors, j'ai une anecdote, si je peux me permettre.
Oui, pas abuser. Oui, non.
J'ai une anecdote, j'adore aussi Sandrard. Et j'avais lu, et ça m'avait fait beaucoup rire, Sandrard qui va voir, qui a admiré Macorlan, bien sûr. Comment ne pas admirer Macorlan. Alors, Sandrard, il pensait que Macorlan était un aventurier formidable. Et il va voir Pierre Macorlan à Saint-Cyr-sur-Morin, c'est Saint-Cyr-sur-Morin, dans Seine-et-Marne, je crois, aux confins de l'Aisne et de Seine-et-Marne. Enfin, oui, c'est Seine-et-Marne. Et voilà, il va le voir et il fantasmait un peu sur cette... il s'attendait vraiment l'aventurier, le baroudeur, etc. Et il est reçu par Madame Macorlan qui lui fait mettre des patins. Des patins pour ne pas... Et après, alors Sandra, ça l'avait choqué, ça l'avait amusé. Avec beaucoup de tendresse, il raconte ça, c'était pas méchant. Mais je crois que je sais plus. En gros, il expliquait que Macorlan, c'est un aventurier en chaussons, en charentaise.
En chambre, presque.
En chambre. Mais c'est magnifique aussi, c'est bien. Moi, je trouve ça épatant. Genre, c'est l'anti-Baudard. C'est l'anti. On parlait juste à l'instant, c'est l'anti. Dominique de Roux, c'est tous ces grands aventuriers, c'est l'anti, Monterland, enfin, etc. Mais quel imaginaire! Et il nous transporte, Macorlan, sur les quais de cette chère ville de Rouen, chère à Benoît Duteurtre et à beaucoup d'écrivains, Olivier Frébourg, nos grands écrivains contemporains normands adorent Rouen, ils ont bien raison. Et Macorlan lui a connu ça de première moitié du siècle, enfin, le début du siècle précédent, enfin, c'est avec toute cette poésie brumeuse, enfin, et toute cette tout ce côté pro-anglais, enfin, très british, enfin... Il y a beaucoup d'Angleterre dans la... Et moi, j'adore nos amis alliés. Je les aime pour des raisons historiques. Je suis assez patriote, vous l'avez compris, en lisant mes textes. Et j'adore l'univers de certains écrivains anglais. Dickens, bien sûr, c'est banal. Enfin, bon, voilà. Et on retrouve tout cela chez Macorlan, ce grand écrivain qu'est Macorlan. J'invite tous nos auditeurs à... se replonger dans Macorlan qu'on trouve en poche, enfin, chez Folio, un peu partout. Voilà.
Alors voilà, je parlais de la nostalgie chez moi, de minuscules verres à gouttes, verres à eau de vie à Genièvre, provenant de l'estaminet, m'ont été transmis, je les garde précieusement. Bah, vous gardez comme dans un flacon, ces nouvelles sont comme des flacons d'eau de vie, on pourrait dire, de cette eau précieuse de la vie. Vous êtes un pêcheur et non pas un chasseur, Philippe Lacoche, je préfère d'ailleurs. Les vieux pêcheurs à la ligne, les mangeurs de viande raisonnable, les chasseurs du dimanche, on leur fiche la paix. En revanche, le capitalisme qui se moque de tout, et en particulier de nous, les bêtes, on ne refait pas de cadeaux. À dire vrai, le monde ne s'en sort pas plus mal. Le temps du pêcheur à la ligne, c'est laisser venir à soi l'histoire, c'est venir à toi la phrase, le hasard, la scène de vie. Ces scènes de vie, vous les croquez bien, à pleines dents.
Non, mais
dire.
C'est exactement, l'image est belle. Et Charles-Élie Couture, sur lequel j'avais fait un livre il y a très très longtemps, disait qu'il était pêcheur aussi, je ne sais pas s'il l'est encore. Charles-Élie Couture disait que pêcher, c'est mettre sa main dans une... comme sur les foires foraines d'antan, on allait chercher les billets, les petits billets de loterie dans une espèce de son, des copeaux, enfin, voilà, c'était ça. On ne sait jamais, dans une eau trouble, en tout cas, en étang ou en rivière, sauf quand l'eau est extrêmement limpide, On a une touche et on ne sait jamais ce qu'on a au bout. Moi, pourtant, je suis pêcheur au blanc et je ne sais jamais si. Pourtant, on repère quand même, on finit par repérer un peu, mais on a toujours une surprise. Il m'est arrivé d'avoir une touche, je dis, tiens, un gardon encore, j'en ai marre, j'en ai fait 15 là, encore un gardon. Et me faire une belle brème, ou une tanche, ou une perche. C'est merveilleux. C'est merveilleux, cette surprise, ces petits moments. Alors, je me permets de vous contrarier et de vous reprendre, Valère-Marie. Vous disiez que, heureusement, que j'étais pas chasseur. Mais vous savez, la pêche, on fait beaucoup moins de bruit. On n'a pas de cartouches, on n'a pas de plomb. Il
ouais.
y a pas un peu de sang, mais le poisson saigne moins qu'une perdrix ou qu'un lièvre. Mais on est barbare. Moi, je pêche au vif, et j'en suis, je ne devrais pas le dire, mais bon, après tout, je m'en fous. J'essaie de la réputation que j'ai, c'est tout. C'est une passion. Et avec le vif, souvent avec le trident, un hameçon trop d'un, on pique dans le dos ou à la gueule. Ouais. C'est pas très, je ne sais pas. Il y a deux écoles. Il y a certains, c'est éthiologues, c'est ça le nom, enfin, ceux qui analysent les comportements des animaux et les souffrances. Mmh. Enfin, certains vétérinaires, plus simplement, disent que le poisson, souffrance extrêmement limitée, pas comparable avec les mammifères, enfin, etc. D'autres disent au contraire souffrance équivalente voire supérieure. Alors si c'est vrai, je me sens dans la peau d'un bourreau. J'écris des textes là-dessus. Je suis un bourreau.
Oui,
pire que les chasseurs presque.
Oui, enfin bon, la démarche est différente quand même.
Oui, c'est différent.
Puisque c'est laisser venir à soi le hasard de la vie. Enfin, je
oui,
veux dire,
et on ne voit pas.
Il y a la rêverie.
Et il y a la rêverie, c'est plus bucolique.
Et il y a l'attente. Il y a aussi l'attente chez le chasseur, parce qu'il guette, etc. Mais c'est pas la... enfin, dans ma tête, c'est pas tout à fait la même démarche.
C'est pas la même démarche, vous avez raison. Ce n'est pas la même démarche, mais le résultat est aussi, voilà.
Bon.
Moi, je ne vais pas défendre la chasse, mais j'ai un copain, et mon copain, vous l'avez sûrement connu aussi, ou tout au moins côtoyé, Jean-Jacques Brochier, on en parlait souvent, Jean-Jacques Brochier du magazine littéraire Paix à son âme, qui était un grand écrivain, grand critique littéraire, qui adorait la chasse, et on parlait, il savait que j'étais pêcheur, on allait au Rouquet quand j'allais le voir, rue des Saints-Pères, dans son bureau. Et on discutait, lui, de chasse, et on comparait un peu nos expériences. Et finalement, on arrivait, et lui, bon voilà, c'était un chasseur qui était un chasseur exemplaire. Et j'ai des copains qui sont chasseurs, qui sont aussi des chasseurs exemplaires, pas des tout sauf des viandards. Alors, pas de lâcher, respectons les règles, enfin, etc. Il fallait, et voilà. C'est un minimum.
Nous parlons littérature, nous ne parlons pas chasse.
Oui, je m'emballe.
Voilà, nous allons faire une pause musicale et nous reprenons notre conversation autour de votre livre, Philippe Lacoche.
Merci Valère-Marie.
Alors, c'est un choix de l'invité, c'est Lady B. Casquette. Je ne connais pas, vous allez découvrir.
De fratrie, de grains de beauté sont dans le dos de Lady B. Et ses cheveux, tout droit coupés, noirs comme Otis, Dog of the Bay. À Palenberg, elle fait penser aux 70s, elle fait rêver une Anita brune égarée. Pourtant c'est elle ma Lady B. En bas du dos de Lady B, mes mains adorent se promener. C'est même mon endroit préféré, le creux des reins de Lady B. Quand Lady B met son collier de pacotille, je suis bouche bée. Au final, je suis très excitée. Elle est experte, ma Lady B. À Palenberg, elle fait penser aux 70s, elle fait rêver une Anita brune égarée. Pourtant, c'est elle, ma Lady B. Son jean est bleu.
Eh bien, je crois que le disque a sauté.
Tout usé, comme les yeux tout délavés. C'est ce qu'elle me dit, amusée, lorsqu'elle retire Lady B. Ma Lady B adore donner et m'aimer sans se retourner. Au gré du gel, en elle, je vais. L'hiver est chaud en Lady B. Dans un tiroir fermé à clé, j'ai mis les strings de Lady B, portés en plein cœur de l'été. si c'est délicieux, c'est Lady B. À Palenberg, elle fait penser aux 70s, elle fait rêver. Une Anita brune et carrée, pourtant c'est elle ma Lady B. Dans le rétro, ado, elle est 670s, ma Lady B. Et porteuse d'une casquette, elle est lèvres ourlées, garçon manqué. Quand je la prends sous les palmiers, dans la cuisine, sous l'escalier. Quand je la prends à contre-pied, dos en semence de Lady B. Aux 70s, elle fait rêver. Une Anita brune égarée, pourtant c'est elle ma Lady B.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, vous écoutez émission Bibliomanie. Aujourd'hui en présence de Philippe Lacoche qui vient vous présenter Oh les filles, un recueil de nouvelles paru aux éditions Héliopole. Et je suis Picard, mais je me soigne, toujours aux éditions Héliopole. Philippe Lacoche, c'est vous qui faites le DJ aujourd'hui,
oui.
qui choisissez. Alors expliquez-nous, dites-nous tout sur ce choix musical.
Bah écoutez, ce choix, moi je me suis auto-promu,
oui,
si
oui,
on peut dire.
On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Exactement, voilà. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis en même temps, je rends hommage surtout à mon jeune frère, Renaud Lacoche, dit Sieur Z, qui joue de la scie musicale, on l'entend, c'est lui qui chante, là.
Ouais.
Et une ex-fiancée à moi, avec qui j'ai toujours d'excellentes relations, qui est Lou Marie, chanteuse et comédienne, excellente chanteuse et excellente comédienne, qui participe aussi à ce projet. Alors, pour cette chanson, c'est la première d'un album qui s'appelle Lady B, une sorte de... ode à ce personnage un peu très 70s, c'est le cas de le dire, une dame plus âgée que le narrateur, et qui s'appelle Lady B, tout simplement, et c'est rimé avec des rimes extrêmement banales, ce sont des octos, je crois, enfin à vérifier, et j'ai écrit ça à ce long poème, et puis j'ai eu l'idée à un moment d'essayer de mettre ça en musique. Et donc j'en ai parlé à mon frère ça lui a beaucoup plu, on a découpé ça en chansons, et on a sorti un livre CD au Castor Astral qui s'appelle Lady B, où on retrouve à la fois le texte et on retrouve ce CD, il y a une dizaine de chansons je crois, c'est une sorte de mini opéra rock, et je crois que ça avait été préfacé par mon copain Philippe Manœuvre de Rock et Folk, et post-facé, si mes souvenirs sont bons, par Christian Thier, je crois, enfin de mémoire, à vérifier. Je suis pas retourné dans l'album, c'est tellement, il y a quelques années déjà. Mais c'est un très bon souvenir,
C'est un bon souvenir. Alors, oui. C'est vrai que vous avez des sacrés personnages de femmes. Hein. Là, il y a une Anita Brune, là, qui...
Oui.
Alors là, il y a Maud aussi, alors...
Oui.
Toujours aujourd'hui, j'aimais tant notre hier, Maud hier, toi et moi, main dans la main, dans les rues de Guise. Toujours la même Maud. Maud, tu me hantes, j'entends ta voix d'aujourd'hui abîmée par le chagrin, par la vie. Une voix atténuée, diaphane, brisé, un souffle aigre, vent mauvais dans les peupliers. Alors encore là, vent mauvais dans les peupliers tristes de novembre, et toujours cette litanie qui résonne dans ma tête. Tu aurais dû me laisser comme lui. Tu aurais dû me laisser comme lui. Il y a des vrais personnages de femmes,
Oui.
Il y a beaucoup de femmes dans ce recueil de nouvelles,
oui.
Avec aussi. Des femmes délaissées, des femmes conquérantes, des femmes qui sont dans leurs rêves, dans leur univers. C'est important pour vous, en tant que romancier et nouvelliste, cette notion d'univers.
Ah ben complètement. Oui. Ben il n'y a pas de littérature pour moi sans univers. L'univers, c'est capital chez un écrivain. On parlait de Pierre McCorland, je reviens sur lui. Il a un univers fantastique, enfin, avec les ports, les brumes, enfin, etc.
Géographie intérieure,
bien sûr. D'autres, j'adore les hussards, hein, c'est banal. Bon, je pense à un de mes écrivains préférés qui est Kléber Hédens. Pareil, Kléber Hédens, il y a une mélancolie chez Kléber Hédens. Magnifique. Lui avait l'aspect d'un vainqueur, c'était un colosse, enfin, admirateur et grand journaliste qui écrivait sur le tennis, mais surtout sur le rugby. Et derrière, il y avait, il faut lire ses romans, Kleber Radins, parce que c'est.
Je l'ai pas lu.
et donc, Adios, par exemple, quand il a perdu l'amour de sa vie, Caroline, il a fait un magnifique roman, son dernier roman, il savait qu'il n'en avait plus pour longtemps, et il avait plus envie de vivre, du reste, et Adios, c'est sa vie, c'est autobiographique, mais c'est magnifique. Enfin, c'est du niveau de Michel Déon, que j'adore aussi, j'adore Michel Déon pour d'autres, pour les mêmes raisons aussi, peut-être. Il y a un côté parfois plus sociétal et plus, même s'il n'aurait pas aimé Michel Déon, que je dise ça, mais plus peut-être politique. Je pense à certains de ses romans, pas tous, hein, mais puis il y a des romans plus d'atmosphère, comme Les gens de la nuit, etc. Ah. Et Kleber Radins, par exemple, ce sont des gens qui ont leurs univers.
Alors, cet univers est présent dans votre recueil de nouvelles, Philippe Lacoche. Par exemple, bonsoir, vous lisez quoi, Fige? Ars, la revue de Jacques Laurent. Ars, quel bonheur, où l'avez-vous trouvé? Donc, il y a des personnages décalés, avec des, un peu surannés. Il y a deux nouvelles avec des histoires de notaires. Je me suis dit, Philippe Lacoche, les notaires.
J'ai un problème avec les notaires. Pendant la préface, on me l'a fait remarquer. J'ai absolument rien contre cette belle profession fort utile.
Non, mais il y a deux personnages de notaire.
Oui.
J'ai presque des personnages de romans policiers, on pourrait dire.
Oui.
Et puis, il y a une série sur les stations-essence.
Oui.
Alors ça, il faudrait qu'on en parle quand même. Parce
oui,
que,
bon.
Voilà, parler... un petit peu brièvement. Mais enfin,
oui,
voilà.
Oui, bon, on peut en parler. Alors ça, si vous voulez, c'est encore une fois... c'est un peu un concours de circonstances. J'ai un très bon copain qui s'appelle Ludovic Leleu, grand photographe, qui est basé à Amiens, photographe de rock principalement, mais pas que. Et il a travaillé beaucoup sur les stations essence, et c'est très poétique, je trouve. C'est un peu à la... Ça m'a fait penser à Carver au niveau des univers, et puis à ce peintre... Ah, peintre américain, zut, le nom m'échappe. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire.
Hopper, non ?
Bravo, merci. Merci Valère-Marie. Hopper, bien sûr. Ces stations essence qui, abandonnées, vous voyez, ouais. Et qui sont souvent transformées là en épicerie, là en pompe funèbre, là en petit magasin de broderie, enfin peu importe, les utiliser. Et on voit encore l'emplacement des pompes. Et je trouve qu'il y a une poésie là-dedans, magnifique. Poésie qu'a capté mon copain Ludo Leleu et qui a fait toute une série de photos. Et comme il aimait bien mes bouquins, il aimait bien mes chroniques du dimanche dans le Courrier Picard, les dessous chic, il m'a dit, Philippe, tu pourrais pas me faire quelques textes là-dessus? Il m'a soumis des photos et je lui ai fait quelques nouvelles, très courtes nouvelles, presque des légendes à ces photos. Et donc, quand j'ai conçu ce recueil, je me suis rendu compte encore une fois que ces nouvelles avaient pour personnages principaux des dames, des filles. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas les mettre là? Et je les ai... Zoé Leroy, mon excellente éditrice, a souhaité, et Léopold, a souhaité les mettre à la fin, parce que symboliquement aussi, c'est cette brièveté qui sert un peu de chute, cette brièveté féminine, et quelque part poétique. Je ne parle pas de mon art, mais je parle de celle dégagée par les photos de Ludovic Leleu, qui m'a inspiré, ces photos m'ont inspiré, pardon, ces textes.
Ce sont des brèves. Et puis, il y a cette notion de route, souvent
voilà.
Sur la route.
Voilà,
on est souvent sur la route dans ce recueil.
On the road again, comme dirait l'un de mes groupes de rock préférés, Candid.
Ouais. Et on est souvent again. Sur, vos personnages sont souvent sur la route.
Oui.
Des petites routes.
Oui, des petites routes.
Des routes, ils sont souvent, même dans vos romans d'ailleurs, mais ils bifurquent. Qui se retrouvent là, entre deux rencontres, il y a souvent...
C'est le chemin des fugues, voilà.
Le chemin des fugues, avec ce type, par exemple, la cendre des souvenirs consumés. Bon, là, tout est dit, là aussi.
Oui.
Hein.
Là, c'est un hommage à maman.
Oui.
Elle ne m'écoute pas, malheureusement, parce qu'elle est en EHPAD, et voilà, et elle est dans son monde, voilà, dirons-nous, mais je pense qu'elle aurait été ravie de lire ce texte et en tout cas de l'entendre lu par... Parce qu'il a été lu, ce texte, par un très grand lecteur qui travaille un peu pour France Culture. Il s'appelle Serge Cazenave. Et vous pourrez retrouver ce qu'il fait, son travail, pas seulement mes textes, hein, je ne vais pas être auto-centré. Il lit des textes qu'il aime, des nouvelles, souvent des nouvelles, des petits récits sur YouTube. Serge Cazenave, il a lu cette nouvelle, il en a fait un petit bijou.
Ah bah justement, nos auditeurs pourront aller sur YouTube.
Enfin,
pourront en tous les cas écouter cette nouvelle. Voilà. Philippe Lacoche, alors c'est vrai que vos personnages, votre univers romanesque est fait de la terre où vous êtes né, la Picardie. Oui. Donc ça nous permet de bifurquer sur Je suis Picard mais je me soigne, toujours chez Léopold. Et c'est un livre que j'ai bien aimé parce que c'est une sorte d'autobiographie assez littéraire. Assez littéraire, vous montrez finalement tout le... un écrivain est fait de différents ingrédients.
Oui,
il y a beaucoup de terres picardes. Oui. Vous dites, j'ai la Picardie facile, je l'avoue. J'aime cette région, j'aime ma région. Je lui dois beaucoup, vieille maîtresse fidèle. Elle m'accompagne depuis 66 ans. Et vous lui
depuis
rendez...
67 maintenant.
67, bon, bah oui. Quand vous l'avez écrit, vous en avez 66, le temps passe. Mais ça vous donne... Cette cartographie sentimentale vous donne l'occasion de pousser aussi des coups de gueule.
Oui.
Dans le livre Pour la Picardie, je commentais la poignée de technocrates Colin Froid de la politique qui a émis l'idée saugrenue de la démanteler devrait entendre que tout comme la France, c'est sa diversité qui fait sa force.
Oui.
Donc c'est à la fois, là aussi, un livre, une promenade sentimentale dans la Picardie que vous aimez.
Oui.
Et puis, en embuscade.
Oui.
Le franc-tireur que vous êtes, paf.
Oui, oui, tout
il
à fait.
Il n'hésite pas à dénoncer ces fameux technocrates qui nous asphyxient.
Oui, ben, il y a quelques années, notre chère Picardie a été rattachée, si on peut dire, intégrée dans cette région des Hauts-de-France, qui regroupe, rappelons-le, le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Alors... Je le dis tout de suite en préambule, hein, je n'ai absolument rien contre nos bons voisins ch'tis du Nord-Pas-de-Calais, au contraire. Mais on est différents, et c'est très bien, on est différents, on n'a pas forcément la même culture, on est voisins, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même histoire non plus, pas tout à fait en tout cas, il y a des points communs bien sûr. Et pourquoi avoir démantelé la Picardie? La Picardie qui a toujours été aussi fidèle, son blason c'est la fidélité à la Picardie, a toujours été aussi fidèle à la France d'abord de la monarchie, très fidèle, elle a donné de très beaux personnages, des gens courageux, ensuite à la France de la République, elle a donné de très grands résistants, elle a donné de grands écrivains, c'est une terre d'invasion qui a été labourée par les invasions. Depuis le haut Moyen-Âge, elle a été... Voilà, nos bons amis d'Outre-Rhin ne nous ont pas fait de cadeaux, rappelons-le, il faut toujours s'en souvenir. Et c'est une terre gorgée de sang. Et c'est ce qui m'émeut aussi dans la Picardie.
Un peu comme les êtres malmenés de votre recueil de nouvelles.
Voilà, et elle est diverse et elle est gorgée de sang. Alors bien sûr, je me souviens d'un copain d'école de journalisme tourangeau que j'avais emmené dans ma belle ville de Ternier. Alors belle, voilà. Et il m'avait dit... Oh, bah dis donc, t'habites là, on dirait une ville de l'Europe de l'Est. Alors là, en gros, c'est vrai, enfin bon, bien qu'il y ait encore quelques beaux restes art déco quand même. Hein. Mais je lui ai rappelé quand même que cette ville avait été malmenée dès la guerre de 1870, rasée quasiment totalement en 14-18 par nos ennemis allemands. Les Prussiens n'ont pas fait de cadeau. Les Prussiens ne nous aimaient pas. Il n'y a pas que Ternier. Mais il faut le dire. Moi je parle franc. Voilà. Il faut se réconcilier. Il faut oublier. Mais moi, je n'oublie pas certaines saloperies qui ont été faites, notamment par les nazis. Enfin, c'est un autre problème. Et après, on y vient. Alors, 14, ils sont partis en 17 et ils ont laissé 3 maisons de maître parce qu'ils comptaient revenir. Ils ne sont pas revenus. Heureusement pour nous. Et. En 39-45, des 40 bombardements allemands, donc la destruction très importante. Et après, à cause de l'occupation, c'était une zone de treillage, une zone de chemin de fer importante. Là, ce sont nos amis alliés, nos vrais amis alliés, qui ont fait leur travail, mais avec des dégâts de collatéraux. C'est-à-dire, ça a été complètement bombardé. Cette ville a été maltraitée 3 fois. Enfin, 2 fois et demi, si on peut dire. Et donc, ce copain, je lui rappelais tout ça, il n'en revenait pas, quoi.
Voilà ce qu'on
veut. Et c'est pour ça aussi, c'est une région, moi, qui m'émeut. Il n'y a pas Ternier, il y a d'autres villes qui ont souffert en tirage, enfin un peu partout.
Meurtri ma Picardie, dites-vous.
Oui.
L'histoire ne lui a pas fait de cadeau. Les invasions ne cessèrent de la ravager. Sa proximité avec Paris l'a exposée au coup. Ses engagements froids et loyaux pour la France. Puis voilà que ça.
Oui.
Après, vous dites, Même si les rois de France ont toujours empêché la création d'un comté picard, la Picardie, zone riche convoitée par les puissances voisines, Flandre et Normandie, finit par devenir une province française avec son gouverneur, etc. Donc c'est une région méconnue, c'est ça qui est intéressant.
Oui.
Et moi ce que j'ai bien aimé, puisque vous êtes un buissonnier, Philippe Lacoche, l'étymologie du mot Picardie, c'est ça que ça devient plus intéressant. Quant à l'étymologie du mot Picardie, dites-vous, elle ne serait ni géographique ni historique. Le mot apparaît pour la première fois en 1248. Il pourrait signifier piocheur.
Ouais.
En effet, les Parisiens appelaient piocheurs les agriculteurs vivant au nord des zones forestières de Senlis et du Valois, là où les paysans étaient bûcherons. Piocheur, ça vous voit bien, vous qui êtes un pêcheur?
Ah oui, ça me va très bien. Et puis c'est beau, je trouve ça sonne en plus, Picardie. Alors moi, je ne savais pas, je l'ai appris en travaillant à la faveur de cet essai, ce récit. Enfin,
ça peut être un récit.
Oui, oui. Et ça, je ne savais pas. L'étymologie, j'avoue, je l'ai appris à la faveur de l'écriture de ce roman, de ce livre, pardon. Et ben, je trouve ça très parlant et très, très fort en même temps. Et ça signifie, ça symbolise bien le Picard aussi, pencher un peu. Dur à la tâche aussi, qui travaille la terre, qui aime cette terre, qui veut la faire prospérer, qui est penché, qui sue aussi, qui n'est pas devant son pastis au soleil en train, j'ai rien contre le pastis, j'ai rien contre le soleil, entendons-nous, mais ce n'est pas la même mentalité. Alors il y a aussi des travers, hein, il y a aussi on peut dire des difficultés dans le tempérament picard. Certains disent que le Picard est muché. Muché, ça veut dire se cacher dans des espèces de grottes, de cavernes, de souterrains.
Oui, ça vous le dites. Hein,
oui, alors les muches, ça existe en Picardie. Notamment, on en trouve dans l'Abbevillois, notamment autour d'Amiens, etc. Ça existe encore. Et à cause des invasions, quand ce qu'on appelait les troupes espagnoles arrivaient, il fallait que les villageois se planquent quelque part, donc ils allaient se planquer là-bas. Et parfois, ils restaient des jours et des jours. Et c'est impressionnant. Et donc, ils faisaient du feu, ils faisaient la cuisine, ils s'occupaient de leurs enfants. Enfin, voilà quoi. C'était particulier. C'est une région très particulière qui a aussi, je tiens à le dire, qui est très varié. Là, j'ai parlé de Ternier, je pourrais parler aussi des plaines du Santerre, qui sont des longues, très larges plaines à betteraves, qui ne sont, ce n'est pas le sud-ouest, ni l'Auvergne, hein. C'est moins joli, il faut le dire, mais ça a son charme aussi. Et puis, il faut savoir, moi, à chaque fois, je me souviens, là, je suis allé conduire mon fils l'autre fois à Albert, et Albert, c'est près d'Amiens, et je me suis arrêté dans un petit cimetière anglais. Et je suis encore un peu ému en en parlant, et je me suis arrêté, il y avait un peu de brume, etc. Je me suis baladé une petite heure dans ce cimetière, et je voyais les tombes de ces soldats, des gamins de 18 ans. Des gamins de 18 ans, pour certains qui n'avaient pas 18 ans, ils avaient 17, 16 ans, certains qui se sont engagés, ils ont fait croire qu'ils avaient 18 ans. Et ils sont venus nous sauver en 14-18. Et je voyais ces tombes qui étaient là, de gamins. Enfin, ça me bouleverse à chaque fois. Et quand je vois ces petits cimetières français, ces petits cimetières anglais, canadiens, néo-zélandais, allemands aussi, à ce propos, l'ignominie antisémite là, a sévi en Picardie. Il y a des tombes d'un cimetière allemand, des tombes juives, de combattants juifs de la Première Guerre qui ont été profanées. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Alors, et honteux.
Voilà ce que vous écrivez justement. Donc vous dites que c'est un pays de souterrains.
Oui.
Des tombes, encore des tombes, souffrant, sont enfouies dans la terre, d'où jaillissent des plantes nourricières, caressées par une lumière crue. Est-ce cela la Picardie? Rien que ça. Trop de souffrances, trop de mauvais souvenirs. Est-ce aussi pour cela qu'on a voulu la démanteler, la fondre dans d'autres régions, plus rieuses, moins sombres, l'île de France? Donc c'est tout. Là, c'est l'art de la vignette, hein, Philippe. Vous avez le sens de la vignette. On va faire une pause musicale et nous reprenons nos conversations.
D'accord.
Eh bien, toujours ce même disque avec les paroles écrites par l'auteur qui date de 2006 et on est passé de Casquette à Cosette.
Il fallait bien la consoler. Au ciné, l'avons invité. a-t-elle grogné?
Elle fait chier,
a fait Lady B. Lady B, oh Lady B. De pop-corn, nous nous sommes goinfrés. Devant elle, sans lui en donner. Fort, elle s'est mise à saliver.
Comme un boxeur,
fit Lady B. Lady B, hey, Lady B. À bout de nerfs, nous sommes rentrés. Roger, lui, jouait aux osselets. Seul, il était sûr de gagner. C'est ce qu'affirme Lady B. Ouais. Lady B. Dans le fleuve, j'ai voulu plonger pour y récupérer la télé.
Ne fais pas ça, t'es trop bourré.
Elle tient à moi, ma Lady B. Lady B, oh. Finalement, Cosette a sauté. Pour Ardisson, elle s'est dévouée. Mais elle ne savait pas nager.
Faut la sauver,
crie Lady B. Lady B, oh Lady B. En trois brasses, elle l'a rattrapée. Et sur le quai, la remontée a récupéré la télé. Elle est extra, ma Lady B. Ouais, Lady B. Tous les quatre, nous nous sommes couchés. Mais Roger, trop fort, a ronflé. Il a fallu le réveiller.
Je vais l'étrangler.
Tonne Lady B. Lady B, oh Lady B. Dès que Cosette s'est éloignée, on l'a tout de suite critiqué. Mais dire ce n'est pas un péché.
C'est tellement bon,
crie Lady B. Ouais, Lady B.
Et oui, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Bibliomanie. Aujourd'hui en présence de Philippe Lacoche qui nous dit tout sur Oh les filles, un recueil de nouvelles qui vient de paraître aux éditions Héliopole. Et Je suis Picard mais je me soigne, qui est paru aux éditions Héliopole aussi. Nous parlons d'ailleurs de la Picardie, de ce livre, de ce petit livre, ce récit sur vos racines,
oui.
Picard.
Oui.
Et puis il y a des... Il y a un côté aussi politique toujours. Hein. Vous dites, vous faites des hommages, des clins d'œil à ceux qui furent vos maîtres.
Oui.
J'ai reçu l'enseignement des hussards noirs de la République, dites-vous. Je crois en l'État, synonyme de bien public. En un mot, j'ai l'esprit jacobin. Je n'en tire aucune fierté particulière. C'est comme ça, tout simplement. Je ne nourris aucune animosité contre les régions. Donc, il y a des petites touches comme ça sur,
oui.
Sur ceux qui vous ont construit, sur
oui,
les instituts. Sur
ouais, voilà.
Cet univers un peu de la fin des années 60, vous avez été d'abord écolier, enfin on sent tout un devenir.
Oui, tout à fait. Et ben, oui, comme vous l'avez compris, bon, ben, mon grand-père était cheminot, mon père était cheminot, donc j'ai vécu dans une ville, Ternier, ville extrêmement ouvrière et cheminote. Et ben voilà, je suis un enfant des 60s, hein, des 30 glorieuses. Et j'ai été formé et éduqué aussi par ce qu'on appelait les hussards noirs de la République, avec des valeurs, faut le dire, des valeurs, ça me plaira peut-être pas à certaines et certains, mais elles étaient importantes. Il y avait encore la morale, des phrases, ce qu'on appelait la morale, des phrases de morale au tableau. Voilà. Et puis ces hussards noirs c'était souvent des vieux socialos, des vieux communistes, des gens de gauche, disons-le. Peu importe en fait la politique, mais enfin ils avaient des valeurs extrêmement humanistes. Mais ils étaient aussi d'une sévérité très souvent incroyable. Hein. Ce n'est plus maintenant, on ne pourrait plus, mais on s'est pris quelques bonnes baffes dans la gueule, faut le dire. Voilà, et quelques coups de règle sur les doigts. Bon, bah voilà, ça nous a pas fait mourir non plus. Je dis pas qu'il faut le faire maintenant. Hein. Heureusement, la société a évolué, l'enseignement et les façons d'enseigner ont évolué, bien heureusement. Mais ces gens-là aussi m'ont fait découvrir Nerval, Rimbaud. Lautréamont, et puis d'autres, et grâce indirectement grâce à un professeur de lycée, une dame charmante, avec des lunettes noires, je me souviens qu'il venait de Paris au lycée Henri Martin, qui adorait le nouveau roman, et elle a essayé de nous, enfin moi, elle essayait de faire entrer dans ma tête d'adolescent, Claude Simon, Nathalie Sarraute, et j'en passe, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais personnellement, je n'aime pas. Ce n'est pas mon type de littérature du tout. Je n'aime pas cette littérature.
Lapsus révélateur.
Oui, lapsus révélateur. Et donc, grâce à elle, je suis allé voir à l'antithèse. J'aime bien aller voir à l'opposé. Et j'ai trouvé les pourfendeurs au sortir de la guerre. Qui étaient les pourfendeurs du nouveau roman? Bah, c'était en particulier les hussards. Ouais. Les hussards qui détestaient le nouveau roman. Kléber Radins les tournait en ridicule. Blondin, n'en parlons pas. Enfin, etc. Ils détestaient cette littérature qui disait, il faut tuer les héros, faut tuer les personnages, faut déconstruire. Je déteste ce titre. Je déteste ce mot déconstruire. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi?
Alors là, voilà, là dans ridicule. Dans votre livre, oui. Philippe Lacoche, oui. Il y a des paysages, il y a le sens du paysage, j'ai bien aimé aussi, mais le blues de la glaise picarde reste inégalé. La tristesse des ciels de laine au-dessus du chemin des dames en novembre, cette lumière malingre et belle comme le teint de la mort. Dans le film Orphée de Cocteau, cette lumière qui faisait pleurer l'écrivain Yves Gibeau quand il parcourait les champs du côté de Roussy et de Crayonne. Alors voilà.
Crayonne. Oui.
Donc il y a ce bah, c'est comme un peu de l'aquarelle là. Hein. C'est il y a des traînées de ciel. Ça vous aimez beaucoup. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vos débuts, parce que ça peut être lu par d'ailleurs les deux, vos deux livres par de jeunes lecteurs, des adolescents. Comment vous êtes devenu l'homme que vous êtes devenu, comment vous êtes devenu l'écrivain que vous êtes devenu, Philippe Lacoche? Votre métier de journaliste localier, oui. Vous l'avez aimé. Vous dites, à l'aide nouvelle, j'ai appris les bases du métier à la fois passionnant et ingrat du journaliste localier. Évoqué avec tant de justesse et de poésie par le regretté Denis Tillinac dans son récit Spleen en Corrèze. Je couvrais les concours de pêche. Ah bah remarquez, ça vous allait bien.
Ça me plaisait beaucoup.
Les deux cartes des lotos, les assemblées générales, les associations cantonales, des anciens combattants, les conférences de dames patronesses sur la poésie romantique, les fêtes nationales, les fêtes foraines, les mariages en série, les kermesses de fin d'année, les arbres de Noël, etc. Vous avez aimé vraiment ce premier métier de journaliste qui est de localier, qui a fait le romancier aussi que vous êtes.
Ah bah c'est incontestable. Non mais vous avez bien lu et vous avez tout à fait raison. Ce métier, oui, il a nourri carrément mon œuvre, enfin mon œuvre, mes bouquins, dirons-nous, soyons modestes. Il a nourri mes bouquins, il a nourri mes romans et mes nouvelles. Ça c'est incontestable. À l'origine, le déclencheur, ce sont quand même mes lectures. Je parlais de Tintin, mais après, ça peut paraître dérisoire, mais c'est Tintin qui m'a ouvert à l'imaginaire. C'est d'abord ma mère, en me lisant Capucine, en me lisant des petits livres. Enfin, ma mère avait à peine le certificat d'études, mais elle adorait lire. Et elle adorait nous lire. Et c'est grâce à elle, ça, c'est l'éveil merveilleux, l'éveil de la littérature. C'est ça, c'est sa voix, c'est ce monde merveilleux, ce monde aussi de l'image, enfin, ces petits livres enfantins, et c'est tout ça. Après, ça a été les lectures au collège, au lycée, un peu plus les poètes, la grande littérature française, etc. Et après, vous l'avez fort bien dit, après l'école de journaliste, ça a été tout de suite, j'ai commencé un peu dans la presse rock, j'ai travaillé à Paris, chez Best, dans la presse rock. Mais rapidement, pour nourrir ma famille, j'ai travaillé, je suis retourné dans ma région, j'ai travaillé à l'Aide Nouvelle, puis au Courrier Picard, ouais, comme localier. Voilà. Et là, ça a nourri, bah oui, j'ai rencontré des tas de gens, j'ai rencontré des... Et souvent des destins, des histoires parfois fantastiques, parfois tragiques, parfois fortement rigolotes. Non, j'ai adoré faire ce métier, bah, comme Denis, mon copain Denis, je l'aimais beaucoup, Denis Tillinac, et... très grand écrivain, très bon journaliste aussi, et qui spleen en Corrèze, c'est merveilleux. C'est le bréviaire de tous les journalistes localistes. Je crois qu'on devrait prescrire ce petit livre dans toutes les écoles de journalisme. On devrait imposer à tous les postulants, les futurs, les élèves d'école de journalistes à lire spleen en Corrèze. On le fait peut-être, hein, j'espère en tout cas.
Et puis vous décrivez par exemple pour le Courrier Picard. Il était alors l'un des deux journaux en France, avec Lyon Républicaine, à fonctionner en coopérative ouvrière de production. Une SCOP, une vraie, cela me faisait rêver, fondée par des résistants socialistes, radicaux-socialistes, gaullistes, communistes, francs-maçons, républicains de tous bords, etc. Donc il y avait derrière ça une aventure, une coopérative.
Oui.
Et
bien
ça,
sûr.
On sent que ça vous plaît. Alors, vous aimez être dans une équipe aussi.
Ah ben complètement. Si je suis venu au Courrier, si je suis rentré au Courrier Picard, c'était une volonté aussi. J'ai eu le choix. J'avais hésité. J'étais jeune père. J'avais un fils. Je venais d'avoir un fils et une fille. Et bah il fallait vivre. En quittant les nouvelles, j'aurais pu travailler dans un grand journal du matin que je ne citerai pas. Du matin, très bon journal, mais qui à l'époque ne payait pas trop et le Courrier Picard payait plus. C'est un peu calcul d'épicier, mais en plus la vie à Paris commençait à être chère, etc. Donc j'ai choisi le Courrier Picard, mais pour d'autres raisons. Les raisons, vous venez de les évoquer, c'était une coopérative ouvrière fondée par les résistants. C'est un vrai journal issu de la résistance. Il faut quand même savoir. Alors, est-ce une légende ou pas? Le premier rédacteur en chef du Courrier Picard, Georges-Louis Collet, que j'ai connu, qui était un petit bonhomme, courageux, résistant. On a dit qu'il a pris le Progrès de la Somme, journal qui avait collaboré sous la mitraillette prussienne allemande, hein, dirons-nous, ils étaient forcés, il aurait pris le journal flingue à la main. Ça, c'est quand même, faut le faire. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je n'en sais rien. Peut-être que certains auditeurs pourront me contredire ou au contraire affirmer. Et en tout cas, ce symbole, cette coopérative ouvrière, représentait quelque chose de formidable. Enfin, l'enfant issu de la République que je suis, issu des hussards noirs, bon, vous l'avez compris, je suis pas un homme d'extrême droite, loin s'en faut. J'ai mes valeurs, on va pas parler politique ici, mais enfin, bon, voilà. Et pour moi, c'était merveilleux. Et j'ai travaillé dans cette coopérative avec un bonheur infini. Voilà, coopérative, on avait un salarié, c'est une voix, hein, la coopérative.
Et avec cet esprit d'équipe,
Très malheureux quand la coopérative a cessé, j'avoue. Enfin, ouais. Ça, bon, même si le journal qui a repris, le groupe qui a repris est tout à fait respectable, hein. Je le dis, et puis à garder quand même un certain esprit. Et ça, c'est très bien, le Courrier Picard est toujours un excellent journal. Mais on était quelques-uns quand même à verser une larme quand la coopérative a périclité.
On sent que vous aimez presque le côté sportif d'une équipe. Alors, pour le goût de la littérature, il y a un moment très émouvant dans votre livre aussi, où vous dites comment vous avez eu vos premiers livres. Jules Verne, dites-vous, comment l'ai-je découvert? Une fois encore, grâce à mes chers hussards noirs de la République, je me souviens des distributions de prix fin juin. Voilà, l'odeur musquée du livre que vous découvrez, le livre unique qu'on garde avec soi, qu'on emporte avec soi, qui est précieux, le désir de lecture. Et ça, c'est évoqué vraiment.
Oui, c'est inoubliable. Les prix de l'époque, je ne sais pas si ça n'a plus existé, je suppose. Enfin, et. On nous offrait pas de console de jeu ou des abonnements pour internet, je ne sais quoi. Et oui, on nous offrait des bouquins, nos prix c'était des bouquins. Et parfois, quand ça m'a fait découvrir des auteurs, c'est comme ça que j'ai rencontré Jules Verne, que j'ai rencontré de grands conteurs, que j'ai découvert un peu Maupassant, je me souviens, Et voilà, grâce à ces fameux prix. Et puis après, les bibliothèques, on dira jamais la lecture publique, on dira jamais assez de bien pour les jeunes gens, le beau travail que font les bibliothécaires, les bibliothèques et la lecture publique.
Ouais. Alors les femmes aussi, parlons-en, dites-vous, au cours des siècles, les héroïnes picardes n'ont pas manqué. Jeanne d'Arc avait fait des émules. On se souvient par exemple de Jeanne Hachette. Présentez-nous cette Jeanne Hachette.
Jeanne Hachette, c'est la Jeanne d'Arc de Beauvais.
Ah, d'accord.
Il y a des fêtes chaque année, pas dire de bêtises, je crois que c'est en juin. On me reprendra, il y a longtemps que j'ai quitté Beauvais, j'étais journaliste là-bas, localier. Oui, c'était une héroïne très courageuse, elle a défendu ardemment le Beauvais, la ville de Beauvais, contre les envahisseurs. Et voilà, c'est un beau personnage, à l'image de Jeanne d'Arc, qui a été récupérée après, mais qui reste un beau personnage. Et moi, je trouve ça... je les trouve, ce sont des femmes merveilleuses.
Des femmes combattantes, vous les aimez
combattantes, beaucoup, je les aime moins maintenant. Hein. J'aime pas trop maintenant. Enfin, je vais encore me faire des amis. Le côté femme puissante, qui est excipé maintenant par certaines ultra-féministes, ça me gave un peu. Non, j'aime bien les femmes, les combattantes à l'ancienne, quoi. Mmh. Les suffragettes, je trouve ça a du panache. C'est autre chose que certaines femmes puissantes d'aujourd'hui qui contestent le fait d'habiller les garçons en bleu et les filles en rose. Il faut dégenrer, soi-disant. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Moi, j'ai une petite fille de 4 ans, elle adore les poupées, elle adore s'habiller en rose, je vais quand même pas la forcer à s'habiller en bleu pour dégenrer.
Non, mais vous, c'est haut en couleur, Philippe Lacoche, c'est haut en couleur. Et vous aimez les couleurs. Oui. Alors, les écrivains, ça, j'ai aimé, on pourrait croire que Je suis Picard, mais je me soigne, c'est un livre comme ça de régionaliste, pas du tout. C'est une anthologie littéraire d'une région aussi.
Merci, Valère-Marie, c'est gentil.
Vous parlez de Laclo, par exemple. Il me plaît, dites-vous. Mais à chaque fois, à chaque coin de rue, il y a un écrivain. Donc, il me plaît que Laclo fût Picard. J'aime beaucoup des choses en lui, son libertinage, bien sûr, mais un libertinage complexe qui pourrait cacher une manière de moralisme. Donc à chaque fois, vous aimez avoir le revers des personnages. Vous ne fixez pas une seule facette.
Eh bien, vous avez bien lu. Parce que j'adore Laclo. Et ça va peut-être vous paraître un peu cruel, parce que c'est aussi un grand écrivain. Je n'aime pas Sade. Je n'arrive pas à... Voilà, il y a des scènes Sade, moi, qui me... Et on n'a jamais ça chez Laclo. Laclo, c'est un... Il y a un badinage, c'est extrêmement français, il n'y a quasiment pas de violence, il y a un peu de méchanceté, il y a un peu de persiflage, mais c'est magnifique, Laclo, j'adore. Et alors en plus, il a été encaserné à l'affaire, il a été militaire à l'affaire, et c'est lui qui, si mes souvenirs sont bons, qui a inventé le boulet. Le boulet, le fameux boulet.
On en a quelques-uns, des fois, des boulets.
Oui, on en a quelques-uns. Et bon, il aurait mieux fait peut-être de faire autre chose. Mais il a quand même inventé le boulet. Et je crois qu'il a conçu ça à l'affaire. À deux pas de chez moi, quoi, où je faisais de la musique et tout ça. Non, Laclo, grand écrivain. Et il y en a d'autres. Hein, en Picardie, on en a plein.
Voilà ce que vous écrivez.
On a Dumas aussi, quand même. Dumas, c'est quelque chose, Dumas.
Voilà ce que vous écrivez.
Mon Dieu.
Né à Villers-Cotterêts, d'ailleurs, Et puis, alors, vous dites, il y a un autre écrivain que vous aimez beaucoup, c'est Roger Vaillant.
Ah, Roger Vaillant, merci. Voilà. Roger Vaillant, je vais être prosélyte encore. Roger Vaillant, il est plus lu quasiment. Le dernier qui lui a vraiment rendu hommage, c'est Yves Courrière dans une excellente, énorme biographie chez Plon, je crois. Mais Roger Vaillant, c'est l'un des plus grands stylistes du XXe. En plus, ce qui ne me déplaît pas, bien au contraire, grand résistant, courageux résistant, physiquement. Hein. Je connaissais très bien le personnage de, pour ceux qui ont lu Vaillant, Drôle de jeu, son premier roman, l'un des premiers romans sur la résistance, l'un des romans les plus lucides. Lui qui était communiste jusqu'en 56, après les crimes du stalinisme révélés, il a retourné le portrait de Staline sans cracher dans la soupe. Élégance française, élégance. Donc, son personnage de Rodrigue, c'était en fait un de ses compagnons de la résistance, Jacques-Francis Roland, que j'ai beaucoup aimé, qui était un de mes amis. Il habitait dans l'Oise, il était enseignant, grand écrivain aussi, grand prix du roman de l'Académie française, enfin, etc. Et Jacques-Francis me racontait qu'il avait traversé comme correspondant de guerre. Après, ils sont engagés comme correspondant de guerre. Ils sont allés jusqu'au nid d'aigle de cette pourriture d'Hitler. Et ils sont allés jusque là-bas. Et en traversant le Rhin, il y avait un pont. Et l'ennemi allemand canardait ce pont. Et il fallait qu'ils passent, sinon ils étaient cuits. Et Jacques Francis reconnaissait, c'était quelqu'un de modeste et de humble. Il disait, moi, j'étais mort de trouille, quoi. Je dis, on va y passer. Il me disait, il me racontait Vaillant qu'il y avait une sorte de cravache comme ça. Il avait un peu des trucs, une sorte de cravache de, comme les colonels anglais, vous savez. Et il tapait comme ça sur le pont et il a traversé le truc sous les balles. Bon, il s'en est sorti, Jacques Francis aussi, heureusement. Mais c'était quelqu'un qui avait du cran. Et on ressent ça dans ses romans, mais c'est un styliste, justement, il a le style du 18... On parlait de Laclos, il adorait Laclos.
Ouais.
Il a le style des grands écrivains du 18e. Il a rendu hommage, il reste au cardinal de Bernis, qui lui aussi a écrit de très beaux textes. Il a fait un très bel hommage au cardinal de Bernis. Il a écrit sur Laclos, il a écrit un très beau petit essai qui s'appelle « La singularité d'être français », parce qu'il était très français, et ça me plaît aussi. J'adore mon pays, sans acrimonie contre les autres pays, mais je suis très moyennement mondialiste, j'avoue.
Ouais.
J'adore la France, et Vaillant adorait la France aussi, voilà.
Et vous dites, d'ailleurs, je ne suis pas venu à Assy en Mulcien pour le seul plaisir du tourisme, c'est là qu'est né le 16 octobre 1907, l'un de mes écrivains préférés, peut-être mon préféré, Roger Vaillant, Goncourt 1957, avec la loi parue chez Gallimard. Donc c'est vrai, voilà, il y a des coups de cœur, on dirait que vous rendez hommage, au détour d'une phrase, à ceux qui vous ont construit pour le fait. Vous aimez la construction.
Oui.
On va faire une pause musicale et nous reprenons notre conversation.
Alors là, maintenant, c'est avec l'accord de l'invité, une qui a choisi la France, enfin deux qui ont choisi la France, on va dire, d'origine espagnole et d'origine congolaise. C'est Christina Rosmini, qui va d'ailleurs, elle est à voir sur scène le 21 décembre au studio de l'Ermitage. Elle chante avec Ray Lema sous nos pieds. C'est absolument magnifique. Il y en a pour 4 minutes.
Les pauvres gens de la côte, l'hiver, quand la mer est haute et qu'il fait nuit, viennent où finit la terre, voir les flots pleins de mystères et pleins de bruit. L'une frémit, l'autre espère, le vent semble une vipère. On pense à Dieu, par qui l'esquive vogue ou sombre, et qui change en gouffre d'ombre, le gouffre bleu.
Attendre au bout du quai, comme on vient embarquer, les embruns dans le soir ont-ils eu vent de la fin de l'histoire, et passent les saisons à défier la raison, à implorer l'horizon. Les aura-t-il vu chavirer dans les ténèbres déchirées? Et je crois qu'il y aura plus de larmes salées dans ton cœur esselé qu'il n'y en a sous ses pieds jusqu'au fond de la Méditerranée. Attendre et croire encore, quand le chagrin s'endort, qu'à l'envers qu'il n'y en a sous ses pieds jusqu'au fond de la Méditerranée.
On guette, on doute, on ignore ce que l'ombre et l'eau sonore au dur combat, et les rocs au trou d'éponge, pareils aux formes des songes, disent tout bas. Et les femmes sur la grève se parle du vaisseau rêve en frémissant. Il est plein de clameurs vagues et traîne avec lui des vagues pleines de sang.
J'ai pris la route à tire-t-elle vers les rivages morts. le silence a dévoré. J'ai pris le large sous la lune, mis la grand voile au vent d'espoir. Me voilà couronnée d'écume, glacée dans le bleu du miroir. Et je crois qu'il y aura plus de vagues salées dans ton cœur esselé, qu'il n'y en a sous mes pieds jusqu'au fond de la Méditerranée. Jusqu'au fond de la Méditerranée.
Et oui, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Nous parlons de deux livres de Philippe Lacoche dans l'émission Bibliomanie. Voilà, nous parlons de deux livres de Philippe Lacoche. Oh les filles, un recueil de nouvelles qui est paru chez Héliopole. Et Je suis Picard, mais je me soigne, toujours aux éditions Héliopole. Philippe Lacoche, votre paysage sentimental aussi. Vous dites, notre époque est triste, elle ne sait plus découvrir, lire ou relire nos meilleurs écrivains sous prétexte qu'ils ne sont pas dans les clous de cette fiche morale, néolibérale et socialement proprette. Tout est dit. Alors, il y a des écrivains que j'ai bien aimé que vous ressuscitiez en quelque sorte, parce que c'est aussi pour ça, les livres et la littérature. Pascal Lainé, par exemple.
Ah oui.
L'autre écrivain que je ne peux oublier, c'est Pascal Lainé.
Oui.
Qui ancrera dans l'Aisne un département. Voilà, vous parlez de cet écrivain. J'avais été bouleversée par la lecture de ces deux livres, leur mélancolie, leur lucidité terrible, l'absence totale de bons sentiments, prétexte qui eût pu faire passer la mère pilule littéraire. Donc vous aimez bien cet écrivain-là.
Ah, j'adore, oui.
Alors, mais qui est un peu maintenant... entre,
oui, voilà, oui, qui est un peu oublié.
Un peu oublié.
Alors, Pascal Lainé, c'est pour
la
rappeler...
La Dentelière.
C'est La Dentelière avec le... Avec ce livre, il a eu le Goncourt, c'est plus 74, je crois, à vérifier. Et il avait écrit juste avant un magnifique livre qui s'appelle L'Irrévolution. Et ces deux livres sont ancrés dans mon cher département de l'Aisne. Pourquoi ? Parce que Pascal Lainé a été, pendant quelques années, professeur au lycée technique de Saint-Quentin. Et il avait laissé un souvenir partagé, dirons-nous, parce qu'il a écrit ces deux livres qui ne sont pas forcément des hagiographies du secteur, mais peu importe. En tout cas, ce sont deux grands livres de haute littérature. L'Irrévolution, c'est l'histoire un peu d'un professeur, c'est très autobiographique, d'un professeur qui se cogne littéralement contre... le niveau social et le niveau de culture de ces jeunes élèves qui ne lisent pas, qui se foutent de la littérature comme ils se fichaient de leur premier sac de billes. Et c'est pas de leur faute, il est pas méchant en disant ça, mais et c'est en quelque sorte l'incommunicabilité entre un intellectuel, parce que c'en était un, qui cherche à faire connaître de grands textes de la littérature, des grands textes de philo, etc. Ça ne fonctionne pas, l'incommunicabilité. Et même thème, presque, en tout cas thème cousin dans La Dentelière, qui se passe bien sûr aussi à Saint-Quentin, dans l'Aisne, ça commence par cette très belle phrase, l'histoire débute, ou comment, je ne sais plus, dans un département en forme de betterave. Quand j'ai lu ça, j'ai compris que c'était de l'Aisne dont il s'agissait. Alors j'ai rugi de bonheur. Et c'est le deuxième, le même thème, puisque c'est l'amour impossible entre un narrateur issu d'une bonne bourgeoisie, lettrée, cultivée, éclairée, et une jeune fille de condition modeste, je sais plus, enfin, il y a longtemps que j'ai pas relu La Dentelière, mais je crois qu'elle est, un métier, elle travaillait, je crois, dans une épicerie un moment. Après, je crois qu'elle était esthéticienne, enfin, de mémoire, hein, de mémoire. En tout cas, un métier extrêmement modeste. Et incommunicabilité et impossibilité véritablement d'un sentiment amoureux fort, malheureusement. Mmh. Et il y a une certaine cruauté puisqu'il abandonne cette femme qui devient anorexique, cette jeune femme qu'il appelle Pomme. Et j'ai une anecdote là-dessus. J'en ai parlé dans une de mes chroniques l'autre fois, il y a quelques semaines. Ça me rappelle, j'étais à Les Nouvelles et j'avais écrit justement sur Pascal Lainé, j'avais écrit sur la dentelière et j'interpellais un peu cette Pomme pour savoir si elle existait réellement. Et un jour, je me revois devant ma machine à écrire en train de taper mes faits divers, j'ai un appel d'une dame et qui me dit « Monsieur Lacoche, c'est moi, Pomme. »
Alors,
est-ce que c'était vrai ? Je ne suis pas tombé dans les pommes, mais j'étais particulièrement ému. J'essayais d'avoir un nom, d'avoir un rendez-vous, bien par sûr. Pure curiosité. Et malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Elle a voulu garder l'anonymat. Est-ce que c'était vrai ? Est-ce que c'était du bluff ? Est-ce que c'était... Je trouve ça merveilleux, extrêmement romanesque. Vous voyez ? Moi, j'étais jeune journaliste, jeune écrivain aussi, tout jeune écrivain. Et j'étais fasciné par Pascal Lainé, parce que j'allais me balader où il avait vécu, j'allais sur le bord du canal de Saint-Quentin, j'allais dans l'hôtel Place du 8 Octobre, où il avait habité, qu'il décrivait dans ses romans. Et cette dame qui m'appelle avec cette voix, c'est comme si une voix fantôme de quelqu'un décédé nous interpellait par ce téléphone. Voilà, c'est ce genre d'expérience qui donne à la vie son côté littéraire et romanesque. En tout cas, c'est ce genre d'aventure, moi, qui me porte et qui continue à me donner envie de me lever le matin.
Bah, nous aussi, de vous lire.
Merci, Valère-Marie.
Robert Mallet, vous en parlez aussi.
Ah, Robert, oui.
Un ami m'a appris qu'après avoir créé la faculté de lettres avec Madagascar, Robert Mallet, encore un personnage, avait fondé l'Académie d'Amiens, etc.
Ouais.
Il y a lui. Alors, il y a des fois, alors, vous n'aimez pas la standardisation, ça, pas du tout.
Non.
Cette société moderne et unilibérale, emballée par les bobos de la communication, qui montait en pente douce et finissait par tuer à nos yeux de fils de prolo tous nos repères. La société de consommation tuerait le monde ouvrier comme elle liquiderait un peu plus tard le catholicisme et le communisme, nous laissant orphelins, décervelés, tout juste bons à consommer. Tout juste bons à consommer, ce tout juste bon à consommer, c'est pas pour vous, Philippe Lacoche.
Non.
Et ce que vous aimez, ben c'est un peu ce vivier vivant de la vie, de la littérature. Et en vous écoutant, je pensais que le localier, justement, le journaliste que vous avez été, un peu comme un détective.
Oui,
il y a un côté détective. Alors, il y a Paul Morel aussi.
Paul Morel, bien sûr.
Il faut quand même qu'on en parle de Paul Morel.
Ah oui, magnifique.
J'associe à la nacre l'écrivain, le journaliste Paul Morel, qui au sortir de la guerre et jusqu'en 1980 fut l'un des critiques les plus brillants du monde des livres. Parlez-nous un peu de ce Paul Morel.
Alors, Paul, je l'ai rencontré au même moment que Jacques-Francis Roland, donc le grand copain de Roger Vaillant. Je les ai rencontrés au même moment. J'avais un chef de local au journal, au Courrier Picard, qui s'appelait Maurice Lubati, paix à son âme, il nous a quittés il y a quelques années, qui a ensuite travaillé à l'AFP, grand journaliste, qui savait, qui connaissait mon goût pour la littérature. Il savait que j'aimais Roger Vaillant, donc il m'a fait rencontrer Jacques-Francis Roland. Et il savait aussi que j'étais lecteur du Monde des Livres et que Paul Morel habitait près de Beauvais. Il habitait près de Méru, exactement. Et j'ai rencontré Ménil-Téribus, exactement, voilà. Merci. Et Paul Morel, bah, c'était quelqu'un de merveilleux. Enfin, c'était un grand résistant, d'une modestie incroyable. Très bon romancier aussi. Il avait publié au Sagittaire, notamment des différents romans. Chez Grasset aussi, je crois qu'il avait publié, enfin peu importe, et surtout grand critique littéraire et dramatique. Et à ce moment-là, j'étais jeune écrivain, j'avais quelques manuscrits dans mes tiroirs, et Paul a été un de mes mentors. Il m'a fait rencontrer des éditeurs, et il m'a fait rencontrer mon premier éditeur, Patrick Ledrapier, à qui je rends hommage, qui malheureusement a périclité 6 mois après, mais il m'a fait publier mon premier roman, que j'appelais Rock d'ici. C'est grâce à Paul Morel.
Voilà, donc c'est...
Et Paul, c'était quelqu'un d'extrêmement fraternel, c'était un vieux socialiste à l'ancienne, pivertiste. Et voilà, fils d'ouvrier, de conditions extrêmement modestes, orphelin, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, c'était quelqu'un de merveilleux, c'était... pour moi, c'était le parangon de l'homme de gauche, quoi, si vous voulez. Je déteste la fausse gauche. Voilà, j'ai une détestation de la fausse gauche. Je parle politique 2 secondes, hein, mais ça se sent dans mes bouquins. De toute façon, j'apprends rien à mes lecteurs. Je déteste la gauche qui trahit, qui a trahi, et Dieu sait qu'elle a trahi ces dernières années. Je déteste cette gauche-là. Moi, j'aime la vraie gauche, et je préfère les gens de droite non masqués, qui arrivent non masqués, voilà, que les gens de gauche qui pourrissent la vie et qui tuent la condition ouvrière. J'ai dit.
Voilà, vous avez dit, et puis on revient à la littérature, parce que moi, j'aime la littérature, et je... Quand vous, par exemple, vous parlez de la baie de Somme, il y a des merveilleux passages sur la baie de Somme, Philippe Lacoche. La baie de Somme sous le soleil, c'est comme si on lisait Villa triste de Patrick Modiano en écoutant AC/DC. Là encore, le sens de, du portrait, du paysage, Modiano. Modiano, faut que vous nous en parliez en fin d'émission.
Modiano, c'est l'un de mes écrivains, enfin, c'est peut-être mon écrivain même préféré. Enfin, je veux dire, c'est indépassable et c'est, pour moi, enfin, c'est celui qui m'a procuré le qui continue à me procurer le plus d'émotions. C'est pour vous dire à quel point je suis fan. Je me suis réservé un livre de Modiano que je n'ai pas... J'ai tout le Modiano, sauf un, Les entretiens avec Berle. Parce que je me suis dit, je me garde ça avant de mourir. Si vraiment je ne peux plus rien foutre, je lirai, avant de crever, je lirai un dernier Modiano. Et c'est celui-là que je le lirai. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais j'ai tout lu et j'adore. Son dernier, La danseuse, c'est un petit bouquin.
C'est très beau.
Magnifique, très beau. Est bon. Enfin, c'est un grand... Et j'ai raté tous mes rendez-vous avec Modiano parce qu'il y a fort longtemps que je l'ai découvert jeune et j'ai voulu à plusieurs reprises l'interviewer. Ça ne s'est jamais fait, malheureusement. On s'est toujours loupé. Et une fois, j'étais à Paris, rue Bonaparte, je le croise, je l'ai appelé. Patrick Modiano, je voulais lui parler. Lui, il serrait la main. Alors, vous connaissez Modiano, il a dû dire qu'est-ce que c'est que ce cinglé de... Vous ne connaissez pas. Et il s'est, avec ses grandes jambes, il s'est sauvé. Voilà, j'ai encore une fois, j'avais loupé Modiano. Oh, mais je le lis avec tellement de plaisir, et voilà. S'il y a un cousin de Modiano qui m'écoute, passez-lui le message, s'il vous plaît.
Est-ce que vous vous souvenez du premier livre que vous avez lu, Philippe Lacoche ? Le premier souvenir de lecture ?
Le premier souvenir de lecture ? Ouais. Alors, que j'ai lu personnellement, c'est Tintin.
C'est Tintin.
Ouais, les premiers livres que m'a lu ma mère, c'était Capucine, un petit livre jeunesse, voilà, avec un petit personnage, une petite fille qui s'appelait Capucine. Je me souviens de Claire de Lune, magnifiquement dessinée. C'est l'accès au merveilleux, c'est Capucine, et l'accès à l'imaginaire, à l'aventure, à la fiction, c'est Tintin. Et après, le coup de cœur vraiment littéraire, c'est Le Grand Moulin. Ça, c'est classique. Je l'ai lu à 14 ans. J'étais follement amoureux de Béatrice, une petite ternoise qui était coiffée comme Brian Jones. Et j'ai lu le livre d'Alain Fournier, Le Grand Moulin. Alors là, je m'évanouissais de plaisir. Et je l'ai relu trois fois, je crois.
Il y a tout ce que vous aimez.
Oui.
Il y a la terre, il y a le mystère.
Le mystère, et puis il y a le romantisme fou.
L'évanescence.
Oui, c'est l'anti-nouveau roman, quoi. C'est si bien, mon Dieu. Il faut lire, relire Le Grand Moulin. Qu'est-ce que c'est beau.
Est-ce que la chasse au petit bonheur, vous qui êtes un pêcheur, fait partie des plaisirs de l'écriture ? Parce qu'on sent qu'il y a des...
Ouais.
Vous glanez, vous êtes un glaneur, vous récupérez les petits bouts de vie, puis vous assemblez.
J'en ai de moins en moins dans cette société terrible que je n'aime pas, société que je n'aime pas l'aujourd'hui, si vous l'avez compris.
Ouais.
J'aime l'hier, je suis un homme d'avant, et j'essaye d'extraire, continuer à avoir des petits instants de bonheur, notamment par la lecture, notamment par le sourire de ma petite fille, les quelques bières qu'on boit avec mon fiston ou des copains et des copines. Et voilà, ça, ce sont des moments de bonheur qui me font encore sourire et qui me plaisent énormément. Et voilà, il faut essayer, comme vous le disiez fort justement. Il y a un écrivain que j'aime beaucoup, j'en ai parlé là dans un grand journal pour lequel je collabore depuis quelques mois. J'ai fait une longue interview de Philippe Delerme, qui est un écrivain que j'aime bien.
Oui. Petite gorgée de bière.
Petite gorgée de bière, qui est un très beau livre. Et je l'ai interviewé, et on parlait de tout ça, des petits instants de bonheur. Alors les écrivains du bonheur ne sont pas vraiment aimés par les intellectuels. L'intelligentsia, pas les intellectuels, l'intelligentsia, c'est différent. Et ils ont tort, parce que c'est un bel écrivain qui écrit très bien sur le bonheur, qui écrit très bien sur les petites choses de la vie. Ben, moi, j'essaie aussi de faire ça. Je suis plus mélancolique que Philippe Delerme. Je suis plus souvent déprimé. Enfin, j'ai plus le spleen que lui. Mais je l'admire et je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a une générosité. C'est une belle âme. Comme son fils, comme Vincent aussi. Vincent Delerme, très belle... très beau chanteur, très bel auteur aussi. Voilà, il faut rendre hommage à ces gens-là.
Est-ce qu'il y a un genre littéraire que vous n'avez pas expérimenté et que vous aimeriez vous êtes parolier,
oui,
nouvelliste,
romancier.
Est-ce qu'il y a un autre genre littéraire qui vous tenterait, une expérience littéraire?
Alors, je suis un modeste dramaturge. J'ai écrit deux pièces de théâtre, dont l'une qui s'appelle... Ça va choquer peut-être vos éditeurs. Elle s'appelle Pourriture.
Ah bah oui, voilà.
Aux éditions Les Soleils Bleus, Pourriture. Et donc, Pourriture va être mise en scène là par Christophe Rethel. Je suis très content. Et sa troupe, une troupe de Picardie. Enfin, je suis ravi. Et donc, deux pièces de théâtre. Je vais en écrire une troisième. Sinon, comme genre que je n'ai pas, pour répondre à votre question, Valère-Marie, genre que je n'ai pas exploré, c'est la poésie. Bon, la poésie, comme tout petit français, petit homme simplement, qu'il soit français ou javanais, peu importe. On écrit, on a tendance, on se croit poète, on se croit Rimbaud quand on a 8 ans. Donc j'écris quelques poèmes qui, bien sûr, n'ont heureusement jamais été édités. Après, voilà, on peut dire peut-être que Lady B est un long poème, peut-être, mais bon, ça n'a rien à voir avec la vraie poésie, Nerval, Rimbaud, enfin, etc. Et bah, le genre que j'ai pas exploité, la poésie, l'autre genre, qu'est-ce que j'ai pas exploité? L'essai, je suis pas très à l'aise avec l'essai, sauf quand j'écris sur ma chère Picardie, là je suis à l'aise, mais sinon l'essai, pourtant je suis un vieux journaliste, enfin je continue un peu à exercer, mais l'essai je suis moins à l'aise. Bon, j'adore la nouvelle, j'adore le roman, je suis très bien là-dedans, ce sont mes manteaux littéraires.
Bah,
manteaux douillets littéraires.
Douillet, merci à vous Philippe Lacoche pour ces deux livres.
Merci Valère-Marie, merci de votre accueil et merci pour vos pertinentes questions, ça m'a touché.
Bon, alors c'est pour Oh les filles, le recueil de nouvelles chez Léopold, et Je suis Picard mais je me soigne, toujours chez Léopold, de Philippe Lacoche. Vous aviez peut-être, on peut vous retrouver, nos auditeurs font, voilà, on va faire les annonces là.
Alors,
les annonces.
Merci de m'en donner la possibilité. Ce samedi 25 novembre, là, de 10h à 18h, je serai sur un salon littéraire à Bussy-le-Long, dans l'Aisne. Ensuite, je serai à Camon. À Camon, c'est tout près d'Amiens, à quelques kilomètres d'Amiens, à un établissement fort sympathique qui s'appelle La Belle Bancale, pour une séance de dédicace de 18h à 20h. Ce sera le mercredi 6 décembre. Je serai aussi le 10 janvier à L'Ours et la Vieille Grille, 9 rue Larrey dans le 5e arrondissement, interviewé par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Ulysse Manès, qui est un jeune journaliste, critique littéraire aussi, et qui fait beaucoup de choses, chanteur également, qui vient de sortir un très bel album. Et je serai, excusez-moi, j'ai oublié, le samedi 9 décembre, à partir de 10h, je serai au Salon du Livre de Roy dans la Somme. Voilà.
Merci à vous, Philippe Lacoche. Alors moi, j'annonce de mon côté. Alors il y a le 7 décembre, Michel Venard, qui est venu une fois, je lui ai consacré une émission, qui lit à voix haute et nue des nouvelles, souvent, des florilèges de nouvelles. Donc le 7 décembre prochain, jeudi 7 décembre prochain, elle lira donc à 19h30 précise des textes d'Alphonse Daudet. Voilà, moi j'aime beaucoup Alphonse Daudet.
Ah, moi aussi.
Vous avez les contes d'Alphonse Daudet, je pense à L'homme à la cervelle d'or, par exemple. Alors c'est au studio de lecture et d'écoute du théâtre Pandora, 30 rue Keller, dans le 11e. Pour les réservations, c'est 09 50 26 06 56, 09 50 26 06 56, ou le mail @free.fr. Et vraiment, ça vaut le coup de découvrir, de redécouvrir Alphonse Daudet. Et le 4 janvier, Michel Venard lira à voix haute et nue, toujours le même principe, des textes courts ou des nouvelles, je pense, de Yachar Kemal, aussi une grande, un grand écrivain. Merci à vous tous. C'était l'émission Bibliomanie, que vous pouvez réécouter sur le site de Radio Libertaire, le podcaster, et en parler à qui vous voulez. Et surtout, je vous dis à la fois prochaine. Je pense que Flo Descailloux va vous réserver une musique de fin, comme on dit.
Évidemment, et là c'est un choix de l'invité, et il y a un des choix de l'invité qu'on n'a pas eu le temps de passer, Lou Marie, Mise à nu, et ce titre c'est Ils étaient trois, et c'est encore Philippe Lacoche qui a écrit les paroles. Au revoir.
Ils étaient trois, les trois baudets. L'un était beau, l'autre vraiment laid, et le troisième.
Ils étaient trois, les trois baudets. L'un était beau, et le troisième, me direz-vous, il cachait un point, c'est tout. Sympa.
fait, il était surnommé, tellement il était équipé. Toutes les filles le regardaient, certaines auraient voulu toucher. Ils étaient trois, les trois bonnets. L'un était beau, l'autre vraiment laid. Et le troisième, me direz-vous, il cachait un point, c'est tout. Et les deux autres étaient jaloux. Le beau pâtrait, le laid surtout. Car le pauvre n'avait rien pour lui. Une seule gueule, un petit outil. Les trois baudets se sont battus. Deux d'entre eux ont été vaincus. Devinez donc qui a gagné. Ben, c'est celui qui était équipé. Ils étaient trois, les trois baudets. L'un était beau, l'autre vraiment laid. Et le troisième, me direz-vous, il cachait un point, c'est tout. Les femmes l'ont défendu, les remercier il a donc dû. À force son outil s'est usé, plus aucune fille ne le regardait. Notre baudet est malheureux, vie si banale, fait plus d'envieux. Ils étaient trois, les trois baudets. Ils étaient trois, les trois baudets. Ils étaient trois, les trois baudets. L'un était beau, l'autre vraiment laid. Et le troisième, oh, me direz-vous, il s'est pendu, un point c'est tout.
Thank you.